un ou deux aspects. L'Épître nous dit que nous avons un grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que ça veut dire, un grand prêtre selon l'ordre Melchisédek? Il y a donc plusieurs ordres de sacerdoce, plusieurs ordres de prêtres. Oui, il y a deux ordres, l'ordre de Melchisédek et l'ordre d'Aaron, selon Melchisédek ou selon Aaron. Aaron, c'était un prêtre sacrificateur, institué sur les ordres du Seigneur par Moïse, et qui est l'ancêtre et le premier des grands prêtres, qu'on célébrait d'abord dans la tente du désert, et après dans le temple de Jérusalem. Ces grands prêtres-là étaient nécessairement issus de la tribu de Lévi, si je ne me trompe pas. Mais ça montre le caractère institutionnel du sacerdoce. C'est-à-dire que, à partir du moment où Moïse l'a institutionnalisé, les grands prêtres ont été intronisés, ont eu une ordination, si vous voulez, une consécration, pour exercer leur rôle de prêtre. Melchisédek, lui, était roi de Chalem, comme vous savez, la ville de la paix. Et il était dans la Genèse, on le rencontre, on voit qu'il est sans généalogie, il n'a pas d'origine, il ne sait pas d'où il vient. Et il vient de près de Chalem, de la ville de Chalem, qui veut dire la ville de la paix. Et prêtre du Très-Haut. Qui est prêtre du Très-Haut? C'est un peu mystérieux, mais c'est les origines de notre humanité, ça. Et lui aussi s'est montré prêtre, puisqu'il était prêtre du Très-Haut. Et ça sera un autre sacerdoce. Ce n'est pas un sacerdoce institutionnalisé, puisque lui-même est sans généalogie, sans origine, sans... Et notre Christ est revêtu des deux sacerdoces. Il est revêtu du sacerdoce de Melchisédek. Il n'a pas été institutionalisé. Il n'est pas issu d'une institution de l'institution des prêtres selon Aaron. Mais lui-même étant sans généalogie, lui-même étant le fils du Très-Haut, le fils de notre Père céleste, et annoncer la paix, il est prêt selon l'ordre de Melchisédek. Et aujourd'hui encore, il y a deux ordres de sacerdoce. Le sacerdoce sacrificateur, c'est-à-dire qui descend du sacerdoce de Lévi, d'Aaron, dont Père Alexis et moi-même sommes revêtus par l'ordination que nous avons reçue et dont nous avons, qui nous donne une mission ministérielle particulière. Mais il y a un autre sacerdoce, selon Melchisédek, dont vous et nous sommes aussi revêtus, qui est d'un autre ordre, qui est le sacerdoce universel, le sacerdoce des fidèles, si je veux dire, qui font... Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est le lien. Le lien entre l'autre monde et ce monde. Et tout chrétien est un lien, est un prêtre qui doit consacrer le monde pour l'amener à Dieu. Selon l'ordre, le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Donc tous sommes revêtus de sacerdoce-là, qui est un sacerdoce qui ne s'exerce pas par un ministère particulier, mais par le ministère de toute la vie. Toute la vie étant une consécration à Dieu. Et le deuxième aspect, Saint Paul nous dit que l'espérance est une encre, et une encre qui est jetée par-dessus le voile du temple. Une encre de navire, c'est une pièce lourde qui s'accroche dans le fond de la mer, donc on ne voit pas, qui est invisible, mais qui attache solidement un navire à la terre ferme, au sous-sol de la mer. Il s'accroche là et il empêche le bateau de dériver. il lui donne une direction, il lui donne une solidité, une stabilité. Et l'espérance est notre ancre à nous. Elle est ancrée, elle est invisible, l'espérance, vous ne la voyez pas, mais cette ancre-là vous accroche véritablement au Christ, et elle est jetée par-dessus le temple, par-dessus le voile du temple, dans le Saint des Saints, et là où est la présence de Dieu. C'est-à-dire que la vertu, l'espérance en tant que vertu, pas en tant que faculté psychologique, psychique, l'espérance en tant que vertu nous attache véritablement au Christ, et au Christ qui est déjà dans le royaume des cieux. Autrement dit, par l'espérance, il faut entendre non pas la croyance en un monde meilleur ou un monde de l'au-delà, mais véritablement à une adhésion profonde, vivante, viscérale ou cordiale, plus exactement, dans l'autre monde où, puisqu'on est un avec le Christ, puisque notre ancre est le Christ, nous sommes ancrés sur le Christ, lui-même étant déjà dans le royaume des cieux, notre espérance, c'est le royaume des cieux. Et pas une espérance à obtenir plus tard, mais une espérance aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devons être dans le royaume des cieux. J'ai pensé vous dire ça tout particulièrement à l'occasion de la crise du virus qui nous attaque actuellement, mais surtout sur ses conséquences. Bien sûr, notre devoir devant une telle catastrophe humaine est de prier Dieu pour qu'il nous sauve et qu'il nous guérisse. Mais notre espérance ne doit pas être dans la guérison physique. Notre espérance, elle est de nous attacher au Christ lui-même, c'est-à-dire de nous ancrer dans le royaume des cieux, de nous attacher aujourd'hui au royaume des cieux. Pas simplement comme un vague espoir pour l'avenir, hypothétique, mais vraiment comme une participation, comme une expérience du royaume des cieux qui justement nous est promis. Et il nous est promis par un Dieu qui nous fait la promesse et qui fait un serment, si je reviens à l'épître, qui jure par lui-même. Il fait serment. Et par ces deux notions infaillibles, le Seigneur nous promet cette ancre d'espérance. Les deux notions infaillibles, c'est la promesse. Quand Dieu promet, il accomplit. Mais c'est aussi le serment. En plus, il fait un serment. Et un serment ne peut pas se révoquer. Donc, par ces deux notions immuables, le Seigneur nous assure et nous donne l'héritage de la promesse. Et c'est là-dessus où est basée notre espérance. Si bien que dans une crise comme celle que nous traversons, et les crises où le nouveau monde dans lequel nous entrons un peu inconsciemment, très inconsciemment, mais qui risque d'être humainement parlant difficile à vivre, notre espérance ne doit pas être seulement pour essayer que ça se passe bien avec le minimum de casse possible, mais que ça nous serve véritablement à nous faire entrer aujourd'hui, à nous donner aujourd'hui l'expérience du royaume des cieux. Et pour que ce soit ainsi, quel que soit l'opposition qu'il y ait à nous laisser nos églises ouvertes, l'accès à nos liturgies, à nos tombes, à nos églises, à nos icônes, par tous les moyens possibles, nous attacher véritablement au Christ. Je vous ai souvent dit qu'on devait porter avec le Christ le drame de Gethsémani, son impression d'être abandonné par son père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et s'il est possible que ce calice s'écarte de moi, mais que ta volonté soit faite. Il faut que nous soyons prêts à ce que l'Église disparaisse visiblement. Ce n'est pas souhaitable. Humainement parlant, ce n'est pas souhaitable. Mais il faut être prêt à ça. De manière à ne pas être scandalisé si une telle chose arrive. Mais continuer à trouver les moyens de notre union à Dieu, même si l'Église n'est plus visiblement présente. Si toutes les églises sont fermées et détruites, malgré tout, il faut garder notre foi et notre pratique quotidienne, horaire, avec Dieu. Par la prière, par les lectures, si on prend encore des livres, etc. Et ça, c'est important à garder. Et l'épître d'aujourd'hui, je pense pas que saint Paul ait prévu le coronavirus, virus, vous savez bien, mais ça s'applique aussi à cela. Quant à la vénération des saints, on vénère particulièrement saint Nicéphore, le lépreux, auquel on demande d'intervenir parce que justement il était lui-même victime d'une épidémie de peste. On évoque saint Charalambos parce que paraît-il il a guéri plusieurs fois à Thessalonique, notamment il a arrêté des épidémies. On évoque saint Luc le chirurgien de Crimée parce qu'on le voit encore faire des miracles d'opération, voilà. et d'autres, les saints Anargyres évidemment, et d'autres encore. Et dans ce phénomène là ne voyons pas ça comme de la magie blanche, si vous voulez, comme de la superstition. Pourquoi on s'adresse à un saint en lui demandant particulièrement telle chose? Pour le cas d'une épidémie, on va demander à saint Nicéphore. Pour le cas d'une opération, on va demander à saint Luc. Pour des cas de cancer, on va demander à saint Nectaire d'Égine, etc., etc. Chacun, est-ce qu'ils ont des spécialités? Populairement, oui, parce qu'il y a une histoire. On s'est focalisé sur un aspect ou un autre, sur les guérisons de Saint-Luc, parce qu'il était lui-même chirurgien avant de son vivant sur Terre, physique. Saint-Nectaire, plus il a guéri beaucoup de cancers, etc., etc. Donc, on leur a attribué une spécialisation. Mais on peut prier n'importe quel saint. Parce que c'est pas les saints qui guérissent, c'est Dieu qui guérit. Et comment ça se manifeste? Comment se manifestent ces miracles, ces guérisons? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un gros problème derrière. Est-ce que Dieu a le cœur si dur que ça? Qu'on soit obligé de passer par des intermédiaires qui sont un petit peu moins timides que nous pour oser l'approcher, pour lui demander une intercession à notre égard. Croyez-vous qu'il faille demander à la Mère de Dieu d'intercéder pour nous, pour infléchir le cœur de Dieu, pour avoir un peu de miséricorde à notre égard? Si c'est ça, où est la miséricorde de Dieu? Il faudrait qu'on lui souffle un peu de miséricorde, c'est un peu de bonté, un peu de... Le phénomène, si je peux l'appeler comme ça, est certainement autre. Et il me semble qu'il est à trouver dans ce dont nous parlons souvent, la communion des hommes dans le corps du Christ. Si nous sommes un en Christ, nous faisons un corps unique. Ce que nous vivons l'un, les uns et les autres, c'est le patrimoine de tous. Ce que dit saint Paul par ailleurs, de même qu'un seul a péché, tous les hommes en sont malades, et de même qu'un seul a amené la guérison, tous ont été guéris par lui. Mais ça, c'est vrai non seulement d'Adam et du nouvel Adam, le Christ, mais c'est vrai de tout homme. Et les saints les saints ne sont pas à proprement parler des intercesseurs, bien sûr, on les appelle comme ça, mais ils ne sont pas à proprement parler des intercesseurs, c'est que notre communion à eux, qui sont en communion avec le Christ, particulièrement intense, surtout maintenant, où ils sont délivrés de leur enveloppe charnelle, ce qu'ils ont vécu, quand ils l'ont vécu sur terre, se répercutait et se répercute sur nous, a posteriori, mais aussi a priori. C'est non pas qu'ils demandent à Dieu un peu de bonté, un peu de miséricorde et d'avoir pitié de nous, même si on l'exprime comme ça. C'est que leur communion, notre communion avec eux, Christ, donc avec le Christ, nous amène une recréation, la vie dans un nouvel ordre, hein, et nous restaure dans notre, le signe en est les miracles qui peuvent se produire. Donc les guérisons miraculeuses, par exemple, spectaculaires, quand un enfant se retrouve avec une cicatrice qui dit c'est dans la nuit Saint-Luc est venu m'opérer, c'est spectaculaire, il y a pas un chirurgien sur terre qui ait fait le travail. Mais d'autres fois c'est simplement des gens qui sont malades et puis d'un coup se retrouvent en bonne santé sans explication. Ça c'est moins spectaculaire, mais c'est la réalité est la même. Ou aussi combien de fois combien de fois les saints nous protègent de cette manière-là en nous faisant échapper par exemple à une épidémie. Je peux pas vous dire que vous aviez le virus et puis que le saint vous a enlevé le virus, mais les saints nous protègent aussi. Si bien que tout est à comprendre. Non pas comme une intercession au sens strict du terme, non pas comme une supplication extérieure à nous qui viendrait qui infléchirait la volonté de Dieu à notre bénéfice, mais comme un acte d'amour de la part de ces saints qui vivaient par amour en Christ, mais et qui se répercutent sur nous. C'est-à-dire que leur activité, leur vie elle-même, par leur foi, leur vie se communique, nous communique quelque chose et nous donne par l'intérieur la force de vivre à nous aussi. Je vous ai pris quelquefois cet exemple-là, nous sommes comme des gants en latex, si vous voulez, et des enveloppes, et l'amour des saints et l'amour du Christ vient remplir ce gant-là et nous innerver, vient nous donner la mobilité à notre main inerte. Mais c'est par osmose, c'est par communication, c'est par communion en quelque sorte. Si bien que il est normal, et je suis le premier à le faire, de dire adressez-vous à tel saint plutôt qu'à tel autre, mais adressez-vous à tel saint. Parce que lui-même, Saint Nicéphore lui-même a dit, ceux qui s'adresseront à moi avec foi, je les guérirai. Donc, profitons-en. Mais vous pouvez prier Saint Sylvane de la Tosse pour le guérir du virus. Vous pouvez prier Saint Pierre d'Aléoute si vous voulez. À la limite, peu importe qui vous priez. Mais nous sommes incarnés et cette manifestation des charismes divins se manifeste particulièrement, on se signe à travers un tel ou un tel plus présent, tout simplement parce qu'on le connaît, on l'a rencontré. Le hasard ou la providence nous fait connaître Saint Nicéphore. Ben, prions Saint Nicéphore. Avec humilité, et disons pas, moi je trouve que c'est un état de gêne, il est autrement plus efficace. Ça n'a aucun sens. Notre prière, notre attachement au saint, elle est universelle. Mais il faut la comprendre comme un acte d'amour. Il y a là, il y avait un exemple. J'essaie de me souvenir d'une mère de famille qui a mis au monde un enfant mort-né ou qui est mort à la naissance ou handicapé. Et ses amis sont venus la consoler, comme les amis sont venus consoler Job, comme on le sait. Et ils lui ont dit, mais te tracasse pas, c'est un enfant, cet enfant-là, c'est un petit innocent, mais là, il est mort, ça va amener la grâce sur votre famille, ça va, plein de bonnes paroles, Et elle est serbiffée, ah non, pourquoi lui? Moi, je préfère, moi, donner ma vie. D'un côté, vous aviez un langage rationnel et atroce, finalement. Pourquoi il aurait fallu que ce petit enfant-là meure et souffre pour le salut des autres? C'est que Dieu est en colère. Qu'est-ce qu'il faut payer? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle rétribution il faut? Alors que la mère, elle avait un don d'elle-même, un véritable cri d'amour. Et c'est ce cri d'amour-là qui sauve. Et pourquoi les saints nous protègent, nous guérissent, hein? C'est justement parce qu'ils agissaient avec amour. Ils agissaient avec l'amour de charité. Je parle pas d'affection, hein. Mais ils agissaient de cette manière-là dans leur vie. Et c'est ça qu'ils nous communiquent encore aujourd'hui. Vous croyez que c'est parce que le Christ est mort sur la croix que ça nous a sauvés? Non, c'est parce que, à travers la croix, il continuait à nous aimer. Et à nous aimer par une abnégation totale de lui-même, sans chercher à se justifier, sans chercher à condamner qui que ce soit, hein, mais il acceptait ça par amour pour nous, il le vit par amour pour nous. C'est cet amour-là qui nous a sauvés. Mais c'est pas sa souffrance en elle-même. Sa souffrance, j'allais dire, elle lui est individuelle. Quand j'ai une rage dedans, c'est moi qui souffre, hein, c'est pas le Christ. Hein. Mais, Si l'amour que le Christ a pour moi et l'amour que je devrais avoir pour lui fait que ça, la moindre de ses souffrances coïncide avec ma rage dedans. Et si donc je m'attache à lui avec foi, par voie de conséquence, ses charismes, sa joie, sa résurrection, sa confiance en lui se communiquent à moi aussi. Ah, tout ce qu'implique cette épître-là.